Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouamadou Koumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 13 novembre 2024. Voici le sommaire. La tension monte au Sénégal à 5 jours des élections législatives. Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à la vengeance après des violences contre ses partisans. L'opposition dénonce un appel au meurtre.
Nous avons besoin du sens des responsabilités de la part des leaders politiques qui tous doivent bannir la violence, quelle qu'en soit la forme et d'où qu'elle vienne.
Le point de vue d'Aliou Ntine, fondateur du think tank Africa Jump Center, à suivre dans la seconde partie de cette édition. Au Mali, la justice rejette la demande de remise en liberté de 11 opposants arrêtés en juin pour complot contre les autorités et réunion illégale. Les États-Unis imposent des sanctions financières contre un général des paramilitaires des forces de soutien rapide en raison de sa responsabilité dans les violences au Soudan. Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump annonce la nomination d'Elon Musk à la tête d'un ministère nouvellement créé de l'efficacité gouvernementale. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yacouba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à la vengeance après des violences menées selon lui contre ses partisans avant les élections législatives prévues dimanche, s'attirant les foudres de l'opposition qui a dénoncé un appel au meurtre. Jean-Roger Bion.
Le Premier ministre Ousmane Sonko impute les violences sur ses militants à des sympathisants du maire de Dakar, Barthélemy Diaz, qui dirige une coalition concurrente en vue des législatives. La coalition de M. Diaz, Samsa Kadou, a dénoncé en retour un appel au meurtre assumé par l'actuel Premier ministre sénégalais. Les Sénégalais sont appelés à élire une nouvelle assemblée après la dissolution prononcée en septembre par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye du Parlement encore dominé par le camp de l'ancien président Macky Sall. Dans un communiqué mardi, le gouverneur de Saint-Louis a constaté que des incidents ont entraîné des blessés par armes blanches et des vols à l'arraché, motivant l'ouverture d'une enquête de police. Il a aussi assuré que la police a procédé à l'interpellation de 81 individus soupçonnés d'avoir pris part à ces incidents. Des violences ont marqué la campagne, ouverte le 27 octobre pour une durée de 21 jours. Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé le 25 octobre tous les acteurs à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes.
Au Mali, la justice a rejeté hier une demande de remise en liberté de 11 opposants. Ils avaient été arrêtés en juin pour complot contre les autorités et réunion illégale, après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir. Michel Joseph.
La demande de mise en liberté, soumise à la cour d'appel de Bamako, a été rejetée, a dit un responsable judiciaire, sous le couvert de l'anonymat. Leurs avocats ont encore la possibilité de faire appel devant une autre juridiction, a-t-il dit. D'anciens ministres, des présidents de partis et de mouvements politiques avaient signé une déclaration le 31 mars appelant les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Ils avaient dénoncé le vide juridique et institutionnel laissé après l'expiration du délai prévu pour le départ des militaires et avaient réclamé la tenue d'une élection présidentielle dans les meilleurs délais. Ils ont été interpellés en juin après une réunion au domicile de l'un d'entre eux, alors que les activités des partis politiques étaient interdites depuis avril. Les militaires ont levé cette interdiction en juillet. Le pouvoir avait décrété en juin 2022 que les militaires vont céder le pouvoir aux civils fin mars 2024 après une élection prévue en février de la même année. Depuis, les militaires maliens ont annoncé le report de la présidentielle à une date toujours inconnue.
Au Niger, les autorités militaires de la transition ont retiré mardi l'autorisation d'exercer à l'ONG française ACTED. L'autorisation d'exercice accordée à l'ONG dénommée Agence d'aide à la coopération et au développement, ACTED, est retirée à compter de mardi, indique un arrêté du ministère de l'Intérieur qui ne précise aucun motif. Une autre ONG nigérienne, Action pour le bien-être, a été visée par la même sanction dans un arrêté séparé. Le retrait des agréments de certaines ONG dont les actions ne s'alignent pas avec les priorités de notre peuple est un signal fort. Le Niger montre ainsi qu'il est maître de son destin, que l'aide internationale doit respecter notre vision, nos valeurs et nos besoins, a déclaré sur sa page Facebook Ibrahim Bana, personnalité nigérienne influente sur les réseaux sociaux et favorable au régime du général Abdourahmane Tchiani. Les États-Unis ont imposé hier des sanctions financières contre un général des paramilitaires des forces de soutien rapide en raison de sa responsabilité dans les violences au Soudan. Cette mesure fait suite à une décision de l'ONU qui a ajouté ce responsable à sa liste de sanctions. Les précisions avec Nani Talani.
Le général Abdourahmane Diouma Barakala a été sanctionné pour son rôle de dirigeant au sein des forces de soutien rapide, responsable des violences continues contre les civils au Soudan depuis avril 2023, indique le Bureau des avoirs étrangers du département du Trésor. Selon ce dernier, Diouma Barakala a mené la campagne de RSF au Darfour occidental, marquée par des allégations crédibles de violations graves des droits de l'homme, y compris le ciblage de civils et des violences avec des motivations ethniques. Washington précise que cette action s'inscrit dans le cadre de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi qui a ajouté ce responsable ainsi qu'Osman Mohamed Hamid Mohamed, déjà sanctionné par les États-Unis, à la liste des individus soumis à des sanctions en raison de leurs actions au Soudan. Les États-Unis disent qu'ils restent concentrés sur la nécessité de mettre un terme au conflit au Soudan. Ils appellent les belligérants à participer au pourparlers de paix et garantir les droits humains fondamentaux de tous les civils soudanais.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump continue de dévoiler le casting de sa future administration. Il a indiqué mardi qu'il comptait nommer l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un ministère nouvellement créé de l'efficacité gouvernementale, conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales, a déclaré le président élu dans un communiqué, assurant que ses deux alliés de sa campagne allaient envoyer des ondes de choc dans le système. Il a aussi annoncé qu'il comptait nommer comme ministre de la Défense Pete Hegseth, un ancien major dans l'armée américaine et actuel présentateur sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs aux États-Unis. Autre annonce, les nominations de l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, un défenseur de la colonisation au poste d'ambassadeur en Israël, de gouverneur du Dakota du Sud, Christine Noem, comme ministre de la Sécurité intérieure, un portefeuille qui comprend notamment les douanes et les gardes-frontières. L'ancien directeur général du renseignement, John Ratcliffe, dirigera la CIA. Plus tôt, M. Trump a annoncé la nomination de l'élu républicain Mike Waltz au poste ultra-stratégique de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les précisions avec Eric Manirakiza.
Dans un communiqué, Donald Trump a annoncé avec satisfaction la nomination de Mike Waltz, membre du Congrès, au poste de conseiller à la sécurité nationale au sein de son équipe. Il a présenté Waltz comme un expert des menaces posées par la Chine, la Russie, l'Iran et le terrorisme mondial, tout en le qualifiant de fervent défenseur de son programme de politique étrangère, l'Amérique d'abord. Ancien militaire avec 27 ans de service, dont une mission en Afghanistan, Mike Waltz représente la Floride à la Chambre des représentants et siège dans trois commissions stratégiques, celle de la défense, des affaires étrangères et du renseignement. Aux côtés de Marco Rubio, pressenti pour diriger la diplomatie américaine, Waltz jouera un rôle clé dans la définition de la politique étrangère de Donald Trump, qui s'est engagé à mettre fin au conflit en Ukraine et au Proche-Orient. Le président élu est attendu aujourd'hui à Washington pour rencontrer Joe Biden, qui a promis de faciliter une transition pacifique et ordonner des pouvoirs avant l'investiture du 20 janvier.
Les États-Unis appellent les acteurs politiques d'Haïti à dépasser leurs intérêts personnels. Cet appel intervient après la nomination d'un nouveau premier ministre par le Conseil présidentiel de transition dans ce pays des Caraïbes miné par la violence. Jacques Aristide.
Les besoins immédiats du peuple haïtien exigent que le gouvernement de transition donne la priorité à la gouvernance plutôt qu'à la concurrence entre les intérêts personnels des acteurs politiques, a déclaré hier Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, saluant l'investiture lundi d'Alix Didier Fils-Aimé en remplacement de Gary Conny, limogé après seulement 5 mois de pouvoir, au terme d'un conflit avec le Conseil présidentiel de transition. Washington, historiquement très impliqué dans les crises successives frappant Haïti, y compris militairement, accueille favorablement l'engagement du Conseil de transition et du nouveau Premier ministre de se doter d'un plan d'action qui définisse leur vision afin de renforcer la sécurité, la gouvernance et qui ouvre la voie vers des élections libres et justes. Alix Didier Fils-Aimé a dit vouloir rétablir la sécurité dans ce pays en plein chaos, confronté depuis quelques mois à une nouvelle résurgence de la violence des gangs, au moment où un avion de ligne américain a essuyé des tirs depuis Port-au-Prince avant d'être détourné vers la République dominicaine. Le chef du gouvernement haïtien a également promis de travailler sans relâche à la cohésion politique du pays.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
En Afrique du Sud, le taux de chômage a diminué pour la première fois cette année, mais reste à un niveau très élevé à 32,1% de la population active au troisième trimestre contre 33,5% au trimestre précédent, a indiqué mardi l'Agence nationale des statistiques. Des emplois ont été créés dans les services communautaires et sociaux, ainsi que dans la construction, le commerce, les mines et les transports. La reprise économique du Congo-Brazzaville se poursuit avec une prévision de croissance de 2,6% pour 2024, bien que le secteur pétrolier connaisse un ralentissement, affirme le FMI. À moyen terme, la croissance devrait se renforcer grâce à la résilience des activités non pétrolières, tandis que l'inflation devrait converger progressivement vers l'objectif communautaire de 3%. Pour terminer, le patron du groupe CHO, principal exportateur d'huile d'olive de Tunisie, a été arrêté pour des soupçons de corruption concernant la gestion du domaine d'État Nshir Tchaal, une plantation de 420 000 hectares. Monsieur Makloufi, également président du club sportif de Sfax, est poursuivi avec plusieurs responsables, dont un ex-ministre de l'Agriculture. Par ailleurs, le président Kais Saied a ordonné une enquête sur des malversations liées à Ntir Nfida, un autre domaine public spécialisé dans la production de légumes et de fruits.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Ligue des champions féminines de la CAF pour commencer avec les rencontres de la deuxième journée du groupe B.
Oui, après leur première sortie soldée par une défaite, les championnes en titre, les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns, comptent se relancer ce mercredi face aux Éthiopiennes de CBE. Les Égyptiennes de Massar FC, elles, affrontent les Nigériennes de Dow Queens. Hier, opération relance réussie pour les autres Sud-Africaines de University of Western Cape FC qui ont battu les Aigles de la Médina du Sénégal 2-0. Les Sénégalaises enchaînent ainsi avec une deuxième défaite qui compromet sérieusement leurs chances de qualification pour les demi-finales. Belle opération pour les Marocaines de Far de Rabat qui ont battu le tout-puissant Mazembe 3-1 et se rapprochent des demi. Pour rappel, cette Ligue des champions féminines de la CAF a débuté le 9 novembre dernier et se poursuivra jusqu'au 23 novembre dans deux villes marocaines, El Jadida et Casablanca. Elles mettent aux prises 8 clubs de foot féminin.
Début ce mercredi, des matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Déjà qualifié à l'issue de la 4e journée, le Cameroun fait face à la Namibie éliminée et qui voudra sauver l'honneur après 4 matchs et autant de défaites dans ses éliminatoires, avec 2 points dans un groupe E dominé par l'Algérie, déjà qualifié et secondé par la Guinée équatoriale. Le Togo n'a pas droit à l'erreur et devra battre le Libéria pour garder ses chances de qualification. En cas de défaite, les Éperviers ne verront pas le Maroc. Autre rencontre à suivre, celle entre le Tchad et la Sierra Leone. Le Ghana, lui, joue vendredi sans son milieu de terrain Thomas Partey. Le sélectionneur Otoa doit écarter le milieu de terrain d'Arsenal pour les matchs contre l'Angola, leader du groupe, ce vendredi, et à domicile contre le Niger, 3 jours plus tard.
Le Mali, lui, affronte le Mozambique à Maputo vendredi.
C'est un match à grand enjeu pour les Aigles du Mali qui, selon leur sélectionneur Tom Saint-Fiet, comptent arracher leur ticket de qualification pour Maroc 2025 avec une victoire contre le Mozambique.
Très bon hôtel ici au Maputo. Le service est bien, l'atmosphère dans le groupe est très bien. On est ici pour une étape de notre route de qualification. On sait que Mozambique, ce n'est pas une équipe faible, c'est une équipe forte. Mais on veut qualifier et on peut qualifier avec une victoire ici ou un match nul 2-2. Ça va être suffisant pour être qualifié maintenant. Ça va être le meilleur. On va voir. Mais pour le moment, je suis très content avec tous les arrangements du gouvernement, de fédération. Tout est bien organisé. Le moral est très bien, les joueurs qui sont prêts, ils sont fiers d'être là, ils sont prêts et l'atmosphère est bien et il n'y a pas de blessure qu'on est prêt pour affronter une très bonne équipe comme Mozambique.
Tom Saint-Fiet, sélectionneur des Aigles du Mali, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Merci Yakuba. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Mouamadou Koumfa, toujours avec vous, maintenant la partie magazine. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé à la vengeance après des violences qu'il affirme avoir été perpétrées contre ses supporters avant les élections parlementaires prévues dimanche. Ses propos ont suscité l'indignation de l'opposition qui y a vu un appel au meurtre. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Dakar, à Lyon-Tine, fondateur du think tank Africa Jaune Center.
Nous avons besoin du sens des responsabilités de la part des leaders politiques qui tous d'ailleurs doivent bannir la violence, quelle qu'en soit la forme et d'où qu'elle vienne. Et effectivement, rappeler aussi que le rôle de l'État, qui est le rôle régalien, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et il faut que l'État le fasse et que tous les auteurs d'actes de violence puissent être arrêtés et mis hors d'état de nuire. Nous avons vu effectivement avec ce qui s'est passé à Saint-Louis que le gouverneur a agi, c'est une très bonne chose. On va vers Dakar et Dakar est un enjeu extrêmement élevé, tant pour l'opposition que pour le pouvoir. C'est ce qui explique effectivement ces tensions, ces violences et puis cette espèce de, comment dirais-je, de nervosité de la part de tous. Mais nous rappelons aux leaders politiques quand même qu'ils doivent avoir un sens élevé des responsabilités, ils doivent savoir garder leur sang-froid, quelle que soit la situation. Mais les actes de violence qui se déroulent en ce moment de la part de l'opposition comme du pouvoir, nous les condamnons sans réserve et nous appelons vraiment les autorités religieuses, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de voir autoriser du calife général des Mourides, de l'ensemble des autres califes, du clergé et également de l'archevêque de Dakar pour dire assez, il nous faut des élections apaisées, transparentes et inclusives.
Quelle est la responsabilité du Premier ministre Ousmane Sonko dans l'escalade de tensions et comment pourrait-il agir pour apaiser la situation?
Écoutez, c'est lui quand même, c'est le numéro 2 de l'État. C'est le numéro 2 de l'État, c'est vrai, il est chef de parti, il est aussi en campagne électorale, mais en réalité, le rôle de l'État, c'est tout simplement d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Je pense que les recommandations très claires doivent être faites au ministre de l'Intérieur, au ministre également de la Justice, et c'est le président de la République lui-même qui est intervenu à 2 ou 3 reprises de très belles interventions du président Bassirou Diomaye Faye. Pour également interpeller lui-même son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Justice. Et je pense que l'État doit agir maintenant, sans faiblesse. Sonko doit toujours rester sage, avoir un sens élevé des responsabilités, parce que quand on a les responsabilités de l'État, si on veut gouverner vraiment et réussir, il faut la paix. C'est extrêmement important que lui-même, en première ligne pour demander la paix, demander effectivement le calme. Et ça va suivre. C'est vrai, ça va suivre.
Aliou Ntine, fondateur d'Africa Jaune Center. La région séparatiste du Somaliland en Afrique de l'Est organise ce mercredi des élections générales au moment où la République autoproclamée cherche à obtenir une reconnaissance internationale et commence à jouer un rôle plus important dans la région. Quelles pourraient être les conséquences de ces élections pour la Somalie, la corne de l'Afrique et au-delà? Élément de réponse dans ce reportage d'Henry Wilkins, relaté par Jean-Roger Bion.
Le Somaliland, région séparatiste de Somalie, organise ce mercredi des élections générales. Le président sortant, Moussé Biye Abdi, du parti Koulmiye Unité, espère décrocher un second mandat. Abdirahman Mohamed Abdilahi, du parti Wadani National, est son principal adversaire. Mais quel que soit le vainqueur, de nombreux électeurs estiment que la question la plus importante pour le Somaliland, qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, est d'obtenir enfin une reconnaissance internationale. Mahmoud Mohamed Hassan, enseignant.
Nous envoyons un message à la communauté internationale pour qu'elle reconnaisse notre pays. Le Somaliland est doté d'un gouvernement pleinement opérationnel. Il y a des partis politiques, une monnaie. Il est différent de la Somalie. Il est stable. C'est un pays démocratique.
Actuellement, aucun pays ni organisme international ne reconnaît le Somaliland comme une nation indépendante. Mohamed Abdirahman, analyste basé à Hargeisa, la capitale du Somaliland, affirme que les candidats sortants et ceux de l'opposition ont des approches très différentes.
Par exemple, le gouvernement actuel rejette la question du dialogue avec la Somalie. L'opposition pense qu'il est important d'engager un dialogue avec la Somalie. L'un d'eux pense davantage à la confrontation, l'autre au dialogue. C'est une opinion. L'autre point de vue est le protocole d'accord que le Somaliland a signé avec l'Éthiopie.
Le protocole d'accord signé en janvier 2024 donne à l'Éthiopie, pays enclavé, accès au littoral du Somaliland et à une base militaire côtière. Cette décision signale une volonté du Somaliland d'obtenir une reconnaissance et de jouer un rôle régional plus important. Selam Tadesse Demissier travaille à l'Institut d'études sécuritaires basé en Afrique du Sud.
C'est un enjeu majeur, pas seulement pour le Somaliland, mais pour la région tout entière. Désormais, l'accord conclu avec le Somaliland va au-delà de l'aspect économique et inclut également certains éléments militaires. L'espace maritime de la mer Rouge est un espace maritime très important, pas seulement pour cette région, mais pour le monde entier.
La Somalie est fermement opposée au protocole d'accord. La Chine, qui exerce une influence considérable dans la corne de l'Afrique et qui doit faire face à son propre État séparatiste, Taïwan, s'est également prononcé contre l'accord. Mais selon Abdirahman, le protocole d'accord et le désir d'autodétermination du Somaliland ne disparaîtront pas, quel que soit le vainqueur.
En Haïti, alors qu'un nouveau gouvernement entre en fonction, la violence des gangs armés semble embraser toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui a prêté serment hier en remplacement de Gary Conille, a promis de rétablir la sécurité dans le pays. A-t-il les moyens de sa politique? Gaby Lorsil a posé la question au journaliste France Duval, rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste.
En réalité, la chute du Premier ministre Conille arrive après un bras de fer avec le Conseil présidentiel de transition. Bras de fer d'abord sur certaines décisions que prenait le Premier ministre, que le Conseil n'approuvait pas. Ensuite, le Conseil voulait changer de ministre. M. Conille s'y opposait. Et de bras de fer en bras de fer, le fil a fini par casser. M. Conille a été remplacé par le Conseil présidentiel de transition ce week-end.
Donc, Alix Didier Fils-Aimé est maintenant Premier ministre. Il a même déjà prêté serment. Qui est-il?
Bon, c'est un politicien et qui a surtout été connu comme étant président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. C'est le seul poste public qu'il a occupé avant. Il avait été candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, il n'avait pas remporté les élections à l'époque. Il était déjà pressenti pour être Premier ministre et c'est à la dernière minute qu'il avait été battu par Gary Conille, la dernière fois qu'on cherchait un Premier ministre pour Haïti.
Mais après toute la saga d'Ariel Henry, l'ancien Premier ministre haïtien, et tout le temps qu'il a fallu pour trouver une solution, entre guillemets, à cette étape de la crise, mais seulement après 5 mois, changer de Premier ministre, signe d'instabilité selon vous?
Oh, signe d'instabilité, mais également c'est la logique qui est respectée. Gary Conille était venu de l'extérieur avec un autre point de vue, avec peut-être d'autres capacités, mais le ciment n'a pas pris. Gaye Conti n'a pas pu faire le mariage avec le CPT. Aujourd'hui, on revient à quelque chose de plus traditionnel. C'est un politicien du Sérail, c'est quelqu'un qui a participé à des batailles politiques en Haïti et qui a des alliés en Haïti.
À part ce que vous avez dit, Prince Duval, est-ce que Alexis Aimé a vraiment les atouts qu'il faut pour faire la différence, surtout dans
personne,
cette situation?
Personne n'a les atouts qu'il faut. Personne n'a les atouts qu'il faut parce que personne n'a les moyens qu'il faut. Et personne n'a non plus les promesses de l'international pour faire mieux que ce que Conny ou ce que Ariel Henry avait pu faire.
Ce qui nous amène à parler du climat sécuritaire en Haïti, il semble à presque tout le monde que la violence des gangs est incontrôlable. Quelle est la situation actuellement?
Bon, la situation c'est la même, là aussi ça n'a pas beaucoup changé. Les gangs avaient annoncé dimanche soir qu'ils allaient déferler sur la capitale, et lundi matin on s'est réveillé, il n'y avait pas de présence policière dans les rues, il n'y avait que les gangs dans les rues. Et cela s'est terminé par ces deux avions qui ont été touchés par des balles perdues, visiblement des balles qui visaient ces avions. Et la police n'a toujours pas dit un mot, aucune autorité ne s'est prononcée jusqu'à présent sur ce qui s'est passé. Il n'y a toujours pas d'école, il y a très peu de transport public, tout le monde attend, tout le monde espère que ça ira mieux, mais ce n'est pas une intervention des autorités qui va calmer le jeu pour le moment, car les moyens sont limités.
France Duval, rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvel Monde. Ici aux États-Unis, au-delà de la promesse d'un retour à la doctrine America First, le président élu Donald Trump n'a pas donné de détails sur ce que sera la politique étrangère américaine sous sa nouvelle administration, mais les premières conversations qu'il a eues avec des dirigeants après sa victoire électorale indiquent qu'il a l'intention de tenir ses promesses de mettre rapidement fin au conflit au Moyen-Orient et en Ukraine. Reportage de Patty Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, récit Yacouba Ouédraogo.
La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et l'invasion de l'Ukraine par la Russie seront des tâches majeures du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Nous rendrons l'Amérique sûre, forte, prospère, puissante et à nouveau libre.
Son investiture est prévue le 20 janvier, mais il s'est déjà entretenu avec quelques dirigeants du monde, notamment le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou dément les informations selon lesquelles Trump se serait entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Le président élu a fait campagne sur la nécessité de mettre fin rapidement aux guerres. Les analystes estiment qu'il veut tenir ses promesses. Charles Koupchan fait partie du Conseil des relations extérieures.
En ce qui concerne le Moyen-Orient, je pense qu'à certains égards, le message sera « Dépêchez-vous de terminer cette guerre ». Pour l'Ukraine, ce sera « Arrêté ».
Trump n'a jamais expliqué comment il comptait faire cesser les guerres, mais a souvent critiqué les milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine. Une fin rapide de la guerre pourrait impliquer des concessions majeures de la part de Kiev, ce qui, selon le président Zelensky, ne risque pas de se produire.
Nous voulons une fin juste à cette guerre. Je suis sûr qu'une fin rapide de la guerre entraîne des pertes.
Avec l'envoi par la Corée du Nord de soldats pour aider Moscou, la guerre en Ukraine pourrait avoir des implications plus larges à un moment où les tensions montent dans la péninsule coréenne. Donald Trump doit aussi traiter avec Israël, qui semble se concentrer sur des objectifs maximalistes plutôt que sur un cessez-le-feu, non seulement avec le Hamas à Gaza, mais aussi avec le Hezbollah au Liban. Ces deux groupes sont soutenus par l'Iran. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien.
Nous voyons la menace iranienne dans toutes ses composantes et le danger qu'elle représente. Nous voyons aussi les grandes opportunités qui s'offrent à Israël dans le domaine de la paix et de son expansion.
Trump a aussi promis d'être intransigeant en matière de commerce, en particulier à l'égard de la Chine. Dans son message de félicitations à Trump, le président chinois Xi Jinping a appelé à des relations stables, saines et durables. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Xi Jinping a souligné que l'histoire a montré que la Chine et les USA bénéficient de la coopération et souffrent de la confrontation.
Trump a également promis de sévir en matière d'immigration clandestine et d'expulser massivement les immigrés sans papier. Lundi, il a donné suite à cette promesse en nommant Tom Homan, son ancien directeur par intérim du service de l'immigration et des douanes, au poste de star des frontières.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.